Salut à tous et bienvenue chez NipDev, NipDev épisode 21. Nous sommes le mercredi 16 juillet pour un retour puisque ça fait plus d'un mois, il me semble, qu'on n'a pas fait d'épisode lié à un emploi du temps qui est malgré les vacances assez chargé. Et donc pour ce retour qui est un retour en fanfare, un épisode que j'ai beaucoup de plaisir à faire aujourd'hui. Pour tout un tas de raisons, l'épisode avec un invité, la personne de Benoît, qui a un projet un peu fou et dont on va parler tout au long de cet épisode. Benoît qui est programmeur. Le titre de l'épisode, c'est « Marcher avec un drone ». En tout cas, non, j'ai même mis « Programmer avec un drone ». Benoît va avoir pendant cette heure l'occasion de nous expliquer son parcours, ce qu'il a fait, ce qui l'a amené à monter ce projet. Sans trop dévoiler de choses et avant de laisser la parole à Benoît, l'idée pour moi, pourquoi je trouve que l'épisode est très intéressant, parce que on a l'occasion là sur un même sujet de voir en même temps énormément de sujets dont on a l'habitude de parler tant dans NipDev que dans NipTech, objets connectés, drones, développement, santé connectée aussi, tout un tas de sujets qui sont hyper intéressants. Et Benoît a eu le courage et l'initiative, a pris l'initiative de mettre tout ça ensemble pour en faire un projet qui est à la fois personnel et qui a un peu de retentissement, ce qui est très très bien. Donc je vais tout de suite passer la parole à Benoît, qui va se présenter, qui va nous expliquer ce qu'il fait dans la vie, son parcours, et ensuite on aura l'occasion d'échanger sur le projet de développer avec un drone. Salut Benoît.
Salut Fabrice. Bon, bah alors oui, je suis Benoît Pereira da Silva, j'ai 42 ans. J'ai été entrepreneur depuis les années 2000, je suis entrepreneur dans le domaine du logiciel depuis le début des années 2000. Même un peu avant, je suis entrepreneur dans le domaine du logiciel. J'ai été éditeur dans le domaine du traitement d'image, de différents secteurs d'activité. Et depuis 2006, je suis devenu consultant indépendant et j'ai progressivement bifurqué dans le monde du développement mobile avec l'apparition des premiers smartphones et des SDK, notamment Apple. Je me suis lancé dans une aventure plus solo. J'ai laissé tomber un peu mes activités entrepreneuriales un peu plus massives. Et je suis devenu développeur, consultant indépendant. Et je développe des produits, notamment l'application Se coucher moins bête sur iOS, qui est une application qui rencontre un certain succès, hein, puisqu'on a quelques centaines de milliers d'utilisateurs par jour et plusieurs millions d'installations. Voilà, je développe aussi des projets, je fais de la recherche et développement externalisé pour des tiers, dans le cadre de projets, dans la sphère des objets connectés, dans différents contextes. Le sujet du podcast n'étant pas nécessairement celui-là, c'est juste une introduction. De formation, je ne suis pas du tout, à la base, je suis un développeur autodidacte depuis 1984. J'ai commencé à développer très tôt, quand j'étais enfant. Je suis de formation, plasticien, donc j'ai fait des études à la Sorbonne en arts plastiques et sciences de l'art pendant quelques années dans les années 90. Voilà.
Alors, je ne sais pas si les auditeurs entendent les petits clics-clics, les petits tap-tap derrière, mais pourquoi ces tap-tap-là? Parce que, évidemment, c'est un podcast audio, donc on ne le voit pas forcément, mais Benoît, en même temps qu'il fait ce podcast, il est au travail et donc il marche. Il va faire, je pense, je ne sais pas si c'est plusieurs kilomètres pendant une heure, mais si, c'est au moins
c'est 3 kilomètres. 3 kilomètres, oui.
D'accord, donc pendant l'enregistrement, Benoît va faire 3 kilomètres et moi je vais faire 0 puisque je suis assis.
Voilà. Donc en fait, oui, depuis un an maintenant, dans 3-4 jours, dans 4 jours ça va faire un an, j'ai décidé de marcher en travaillant. Donc, je me suis équipé d'un dispositif qui est résolument courant, on va dire, aux États-Unis, qui est un bureau tapis roulant. Et donc, je travaille exclusivement debout et en marchant 99% du temps, c'est-à-dire 5 à 6 jours par semaine. Je fais entre 20 et 30 kilomètres par jour.
20 à 30, voilà. Donc ça, je pense, ça vaut le coup déjà de s'arrêter sur ce point-là, puisque je peux bien imaginer que les programmeurs qui nous écoutent, comme ça, à brûle-pourpoint, voient ça comme un peu fou de faire 20 ou 30 km en développant, bon, quelle que soit la techno d'ailleurs, je pense pas que ce soit ceux qui sont le
Oh
point
non.
précis, mais moi en tout cas, comme ça, maintenant on a eu l'occasion de discuter, donc ça me paraît plus réaliste, puisque déjà c'est possible puisque tu le fais, mais je pense qu'il est utile de s'arrêter sur le pourquoi tu as eu cette idée, qu'est-ce que tu as fait concrètement, et qu'est-ce que peuvent faire chacun des auditeurs qui sont développeurs et qui ont envie de faire peut-être pas une vingtaine de 32 km, mais déjà 4 ou 5. Allez.
Écoute, en fait, la quantité, elle est simplement issue. La quantité en elle-même n'a aucune importance. Je donne ça pour référence parce que c'est la réalité. Mais au fond, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'était de sortir d'une situation de sédentarité qui est le propre de, je dirais, la plupart des développeurs. Il y a très peu de développeurs finalement d'assez haut niveau qui ne soient pas rivés sur leur siège et qui donc il y a très peu de personnes finalement qui peuvent se véritablement comment dire ça? Enfin, je veux dire, la plupart des gens se trouvent confrontés à une espèce d'ultra. La plupart des développeurs se trouvent confrontés à une espèce d'ultra sédentarité qui est induite par cette dimension presque obsessionnelle, compulsive de la programmation, quoi, qui est une activité vraiment prenante. Et donc, c'est véritablement, me rendant compte vers 40 ans que je commençais à avoir des sérieux soucis de santé, qui étaient principalement indexés sur mon poids, puisque j'ai atteint 107 kilos pour 1,72 m, en étant encore en relative bonne forme, hein. J'étais pas en grande difficulté, mais je commençais à me sentir essoufflé, tout ça, et donc je me suis dit, il faut vraiment, vraiment faire quelque chose. Et j'étais convaincu, si tu veux, de l'inutilité des approches de type régime ou annexe, et j'ai cherché une solution pour changer véritablement de mode de vie, et non pas simplement ajuster une petite variable, comme dire je vais consommer un peu moins de sucre, un peu moins de graisse, un peu je sais pas quoi. Voilà.
Et c'est vrai qu'on parle souvent dans l'IPTEC du changement et de comment changer ses habitudes. Et on s'aperçoit qu'il est finalement plus difficile de s'astreindre à une petite modification qu'à un gros changement. Parce que un gros changement, en fait, on le vit tous les jours, on le vit 100% du temps. Et donc, ça devient beaucoup plus vite une habitude qu'une petite modification. Tiens, je vais manger un peu moins, et là, le naturel, on va dire, peut revenir assez rapidement au galop.
C'est surtout, si tu veux, qu'en fait, biologiquement, nous sommes des créatures qui avons évolué sur des millions d'années jusqu'à devenir des bipèdes principalement, sont des créatures qui se déplacent, qui restent debout, qui sont finalement presque de manière essentielles, sont des machines à marcher, quoi. Donc, en fait, depuis quelques dizaines d'années, quelques centaines d'années, quelques dizaines surtout, nous nous sommes véritablement scotchés sur nos sièges et nous avons finalement, nous en payons un prix, fort prix, puisque c'est évidemment, on le voit avec l'obésité, mais l'obésité n'est qu'un symptôme, hein, de quelque chose de beaucoup plus profond, hein, c'est-à-dire d'une difficulté à être au monde, je veux dire, physiquement, à s'inscrire, à faire des choses basiques, hein, comme se déplacer. Voilà, donc moi, dans cette optique-là, j'ai voulu me réancrer. Bon, j'habite à la campagne, je suis aussi télétravailleur dans la famille des choses un peu atypiques. Je suis télétravailleur indépendant et donc je vis dans un environnement naturel exceptionnel puisque je vis dans le parc national des Cévennes. Et pour autant, j'étais avant de me remettre finalement en marche, j'étais véritablement complètement déconnecté de la réalité du monde. Et j'ai voulu, avec ce dispositif qui peut sembler un peu ridicule, hein, d'un tapis roulant plus un bureau, j'ai voulu me réancrer dans ma réalité biologique, on va dire.
Ah, c'est sûr.
Et pour le programmeur que je suis, finalement, ça a posé assez peu de difficulté technique.
Oui.
Puisque, si tu veux, le fait de marcher devant une table, c'est quelque chose qui n'autorise pas tout type de tâche, hein, bien entendu, mais qui permet sans aucun problème la saisie au clavier. Et nous sommes quand même dans le domaine de la programmation, nous agissons principalement en saisissant du texte, en manipulant.
Alors, j'ai quand même vu une photo sur ton blog où on voit un écran qui est un peu en vrac à côté du tapis roulant où tu as eu, c'était probablement au début, quelques
non,
ajustements.
C'est pas au début.
Enfin, ah, c'est pas au début.
C'est pas au début,
alors,
mais ce qui
c'est la période où on devient trop confiant, tellement confiant qu'on fait plus attention.
Oh, c'est une connerie, c'est une connerie.
Ouais.
En fait, j'ai laissé traîner un câble USB. En fait, quand on marche, c'est totalement automatique. Comme tu doutes. Ah, pardon, j'ai une sonnerie. J'ai des batteries de drone qui viennent de se charger, ça sonne. Excusez-moi.
On va parler de drone juste après, c'est super.
Donc, le truc, il m'est arrivé une petite aventure il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ou 3 mois, donc ça faisait déjà longtemps que je marchais. Et d'ailleurs, pour moi, c'est devenu une activité depuis... au bout de quelques semaines, c'est devenu une activité d'arrière-plan, de fond, complètement inconsciente, quoi. Hein. Je marche sans... C'est complètement naturel. Ce qui est plus naturel pour moi, c'est de poser mes fesses sur un fauteuil. Ça me pose d'ailleurs... Ça m'amène à avoir des courbatures, d'ailleurs. C'est assez hallucinant. Si je reste 2 heures sur un fauteuil à travailler normalement, j'ai des courbatures, ce qui est l'inverse de la plupart des gens. Et si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu une activité tellement automatique, en effet, que je suis monté en puissance, c'est devenu quelque chose de totalement naturel. Et un jour, j'ai laissé traîner un câble USB qui venait de derrière un de mes écrans, des écrans Apple Cinema Display, là. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais ce câble qui traînait, qui n'était pas très loin... que j'avais branché, qui traînait en dessous de ma table. Et en marchant un peu vigoureusement, j'ai mis le pied sur le câble USB. Ça a fait basculer les 2 écrans. Et j'ai failli manger le bureau. Ça a fait tomber les écrans par terre. Ça en a cassé un. L'autre a été un petit peu abîmé. Enfin, voilà. Donc, depuis, j'ai changé mon dispositif, c'est-à-dire que je mets des chasseurs joints, si tu veux, sur mes écrans pour faire qu'en cas de
d'arrachage du câble, voilà.
Ouais, en cas de micro-accident, quel qu'il soit d'ailleurs, si tu te prends les pieds, parce qu'il peut arriver que tu te prennes les pieds sur un truc ou que tu loupes, bon, ça peut arriver. Et donc, concrètement, c'est vrai que ça m'est arrivé alors que j'étais vraiment très expérimenté.
Ouais. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots ton bureau? À quoi il ressemble? Parce qu'après, écoute, les gens vont aller sur ton site, on le mettra dans les liens de l'émission.
Oui, alors écoute, c'est pas compliqué. J'utilise un bureau qui est un bureau qui est véritablement fait pour ça, hein, qui est un bureau qui fait environ 1m40, qui peut se régler entre 1m20 et 1m50 de hauteur, on va dire. C'est un bureau avec un petit vérin hydraulique qui permet donc de régler, parce qu'évidemment, pour pouvoir travailler confortablement en marchant, il faut avoir un bureau qui est adapté à la taille du marcheur. Il faut le régler précisément pour pas que ça soit trop difficile. Donc j'ai un petit bureau qui fait 1m20 ou 1m20 de large, qui est assez haut sur pattes, sur une structure métallique, et j'ai un tapis roulant en dessous. Et j'ai une commande déportée du tapis roulant juste à côté de mon plateau, avec la possibilité de régler la vitesse, la possibilité évidemment d'arrêter également avec des compteurs de distance, des petits gadgets comme ça.
Ça, c'est quelque chose qui était livré avec le tapis ou tu l'as bricolé?
Non, c'est quelque chose. En fait, j'ai acheté véritablement ce qu'on appelle une workstation, vraiment une station de marche. Je l'ai acheté en Belgique. En Europe, c'est très très difficile de trouver ces produits actuellement. J'ai des amis qui ont essayé dernièrement d'en acheter. C'est vraiment très difficile. Ça reste encore assez confidentiel comme dispositif, même si ça a tendance vraiment à se développer. Et donc, j'ai acheté ça en Belgique. Et c'était tout prêt, quoi. Donc, je l'ai juste monté. J'ai rien fait de plus. Aujourd'hui, si je recommençais, j'adopterais peut-être plus cette démarche-là. Je ferais peut-être maintenant que je sais exactement quelles sont les caractéristiques, je ferais peut-être un autre choix pour avoir un dispositif plus, notamment pour avoir un dispositif par exemple réglable en hauteur électriquement, parce qu'il existe des bureaux beaucoup plus chers, bien sûr. Il existe des bureaux réglables en hauteur électriquement et des dispositifs un peu plus adaptés. Comme c'est devenu mon principal instrument de travail, si tu veux, je suis prêt à payer cher pour.
Tu penses qu'on peut partir d'un threadmill ou d'un tapis de course habituelle. Et rajouter, en gros, je fais le truc vite fait, mais moi, ce à quoi j'ai pensé, c'est tu prends un tapis, tu poses une table devant,
Oui, alors c'est
et
possible.
puis.
Il y a des gens qui ont fait ça. Il y a plein de cas, hein, si tu veux, de personnes qui ont essayé ça. C'est possible, mais néanmoins, bon, il faut faire quand même très attention. Il faut faire très attention aux questions de stabilité. Tu as vu mon histoire d'écran. Il faut quand même d'avoir un dispositif qui est très stable. Il doit être assez haut. Il faut surtout, surtout faire gaffe de ne pas se blesser. Parce qu'en fait, la moindre. Il faut savoir que si tu te mets debout, c'est pour travailler dans une position qui est ergonomiquement et qui est compatible véritablement avec ta morphologie. Et si tu te mets debout et que tu es légèrement tordu ou que tu es en. Ben, tout de suite, tu vas générer des douleurs. Tu vas générer des douleurs, tu vas générer des problèmes, et finalement, ça peut être des douleurs articulaires, des douleurs aux genoux, au dos, tout ça, parce que ton truc, il n'est pas tout à fait adapté. Je pense que c'est possible de faire du do-it-yourself, mais il faut, faut véritablement étudier profondément le sujet. Tu ne peux pas comme ça, voilà. Alors de plus, il ne faut pas un tapis qui va vite, parce que l'idée de marcher en travaillant, c'est plutôt quelque chose qui se produit, alors pour la plupart des gens, entre 1 et 3 km heure. Moi, je marche à 3 km heure. Tu vois, je marche à 3 km heure. Il y a beaucoup de gens qui ont un peu plus de mal à 3 km heure, qui préfèrent 2 km heure. Bon, enfin, ça dépend un peu de la position de chacun. Donc, il faut plutôt un tapis. Ça sert à rien d'avoir un tapis qui va à 20 km heure. Donc, et puis, il faut un truc qui ait beaucoup de couple. En fait, il faut un tapis. Alors, normalement, ils sont modifiés un petit peu de telle façon à avoir beaucoup plus de couple et être plus stable que les tapis de course, quoi. Ils n'ont pas le même amorti ni rien. C'est pas tout à fait le même matériel. Il y a d'ailleurs des constructeurs qui sont spécialisés dans les tapis dans les bureaux dans les tapis de bureau. Hein. C'est pas. Ah ouais. Il y en a pas mal. Mais on peut. Alors évidemment, au départ, la plupart des au début, il y a quelques années de ça, quand ce mouvement a commencé, ça a commencé au début des années 2000, mais ça s'est précipité vers 2008-2010. Aux États-Unis et notamment en Californie, où il y a pas mal de développeurs qui se sont lancés dans cette aventure-là. À ce moment-là, il y a eu beaucoup, beaucoup de personnes qui ont fait des tentatives de construction, etc. Mais bon, très franchement, je le répète, si c'est vraiment un outil de travail, il vaut mieux investir dans un truc très adapté, bien testé, bien analysé, parce que ce n'est pas un choix anodin. Il y a des risques. Il y a des risques si tu le fais mal. Les risques, il y a une réalité.
Oui, surtout, ce que tu me disais la première fois qu'on a parlé, c'est que quand tu démarres, quand tu commences à faire ça, tu as inévitablement quelques douleurs aussi qui ne sont pas liées à une mauvaise position, mais qui sont plus liées à un changement d'habitude du
Ah
corps
ben
où,
écoute,
ah oui, il faut voilà, reprendre.
fais un essai pendant une semaine, marche 150 km, puis tu vas comprendre. Tu marches 150 km une semaine. Tu vas être dans un état que tu ne soupçonnes même pas, si tu n'as pas l'habitude. Alors, si tu es un sportif vraiment aguerri, etc. Moi, quand je suis passé les premières semaines, j'ai fait environ 100 km tout de suite parce que j'étais obsédé et que j'avais et que ça m'intéressait et que ça m'intéressait vraiment, si tu veux, d'aller jusqu'au bout de la démarche et de donc j'ai marché beaucoup et je peux te dire que déjà j'avais des problématiques de évidemment, de douleurs aux pieds, de douleurs articulaires, tout ça. Mais ceci dit, pour ceux que ça intéresse, bon, je sais que c'est plutôt un. On est sur NipDev et on peut parler de développement
Faudra
de.
faire ça en export, faudra faire ça, ouais.
Ouais. Pour préciser juste un tout petit peu, il s'avère quand même que le fait de marcher comme ça a tendance plutôt à réparer les articulations qu'à les abîmer.
Oui, j'évoquais ça parce que si tu as une installation qui n'est pas adaptée, c'est peut-être pas évident quand tu démarres de faire la différence entre une douleur qui est normale et qui est liée au changement d'habitude qui va s'estomper une fois que tu auras l'habitude de marcher quelques dizaines de kilomètres par jour, et une douleur qui est liée à une mauvaise position et qui peut générer des vrais traumatismes.
Ouais,
C'est
bah,
pas.
de toute façon, c'est vrai ce que tu dis. Bon, de toute façon, ça reste une pratique qui est à inventer, que l'on doit adapter en fonction de son contexte et qu'il faut. Voilà. Alors, ce qui est sûr, pour donner quelques repères et pour pas. Pour donner quelques repères pour les auditeurs, ce qui est certain, c'est que d'une part, toutes les tâches ne sont pas compatibles. Il est possible, on parlait de la programmation c'est. tout à fait compatible parce que principalement on travaille avec le clavier et que les actions à la souris sont des actions quand même de près, pas hyper complexes et qui ne requièrent pas une très très grande précision. Ouais. Donc c'est totalement compatible. Surfer, lire des mails, écrire des textes, c'est possible. Cependant, il y a des gens qui ont quand même du mal à tenir toute la journée au niveau de la fatigue oculaire. Parce que, je sais pas, toi tu me vois en vidéo, tu vois peut-être que pendant que je marche, là, j'ai le niveau de mon visage fluctue légèrement. Et en fait, c'est inévitable. C'est-à-dire que la marche produit une alternance qui fait que les yeux bougent. Et comme les yeux bougent, quand tu regardes du code et que tu es en train de... d'inspecter ou d'introspecter, de regarder ton débugger ou je sais pas quoi, tu as besoin quand même d'une très bonne précision de la position de tes yeux. Et il y a des gens qui souffrent un peu de ça et qui ont du mal à maintenir l'attention, qui souffrent un peu d'un point de vue oculaire. Mais en dehors de cet aspect visuel, c'est 100% compatible avec les tâches de type écriture. Ça ne l'est pas du tout avec le dessin, c'est-à-dire que si... ça n'est pas avec le dessin, ça ne l'est pas du tout pour les graphistes qui ont besoin de faire des tâches de précision avec leur...
Pour les chirurgiens non plus.
Voilà, c'est presque exclu. Maintenant, bon, je pense que sur NipDev, il y a quand même beaucoup de développeurs.
Oui, ben voilà, je pense que là, pour le coup, et aussi, je pense, alors tu me corriges, hein, mais une des objections qui pourrait être faite assez rapidement, c'est de dire, oui, mais moi, je travaille en banque, je travaille en SS2I, etc. Donc, bon, non, ça ne sera jamais possible... d'aménager ça avec mon employeur. Néanmoins, les geeks que nous sommes aiment aussi le soir regarder, lire de la doc, regarder, développer, manipuler des technos qu'on n'a pas l'occasion de manipuler dans les heures de travail.
Moi, je suis
tout à fait intéressant.
Je ne suis pas d'accord avec ton idée, avec l'idée selon laquelle les employeurs ne sont pas d'accord avec ça. Je pense que les employeurs, il y a un effet retard, mais aujourd'hui, si tu veux avoir un salarié qui est plus en forme, avoir un développeur qui est plus en forme, c'est pas nécessairement inintéressant pour un employeur.
Déjà, le télétravail tout seul, que ce soit sur tapis ou pas sur tapis, c'est déjà quelque chose qui n'est pas évident. Enfin, après, en fait, que ce soit sur tapis ou pas, le télétravail, il faut le faire passer. C'est pas, en tout cas, moi, je bosse au Luxembourg, je ne sais pas comment c'est à Paris, comment c'est ailleurs. C'est vrai que je connais un certain nombre de personnes qui peuvent, une journée par semaine, l'employeur autorise à faire du télétravail une journée par semaine, ce qui est mieux que rien. Maintenant, de systématiser, c'est pas évident. Bon, toi, tu as la chance, créé cette chance-là, d'ailleurs.
Oui, au moment où j'ai commencé ça, j'avais encore 18 salariés. Donc, si tu veux, j'avais 18 salariés, donc il fallait bien que j'ai... Et puis, je travaille en équipe actuellement. Je suis consultant indépendant, mais je travaille toujours en équipe. Et donc, si tu veux, le télétravail, c'est une réalité quotidienne pour moi depuis 2006. Cette réalité quotidienne, elle ne pose aucun problème. Elle est vraiment rentrée dans les mœurs, au moins dans la sphère de l'indépendance.
Ça, c'est sûr. Hein, oui, c'est juste.
C'est-à-dire que dans la sphère de l'indépendance, il n'y a pas de problème particulier. Ceci dit, moi, je suis convaincu que les employeurs, justement, que les SS2I, que les entreprises ont besoin d'avoir des salariés qui sont en bonne santé. Tu sais, un super développeur qui fait une crise cardiaque, c'est pas terrible non plus.
Non, et même, alors là, on sort un peu du sujet du podcast, mais on pourra peut-être en parler dans un autre du podcast là, en tout cas dans un autre numéro. Moi, je suis aussi convaincu que le télétravail oblige à une certaine rigueur, parce qu'on confond pas le résultat et la présence. Et donc, ça oblige à un certain nombre de choses. Finalement, c'est plus compliqué de vraiment travailler en télétravail qu'en étant dans les locaux. Ça impose d'autres choses qui sont plutôt bénéfiques pour notre métier. Donc, moi, je suis aussi très, très favorable à ça. Maintenant, ce que je remarque, c'est pas un avis personnel, mais c'est une remarque, c'est que chez les clients, je prends un exemple bête, sans parler de télétravail. Les clients, moi je travaille dans une société qui fait des projets informatiques, et les clients très souvent nous demandent à ce que les consultants soient chez eux, et pas chez nous.
Bien entendu, mais si tu veux, je suis conscient de ça, mais bon. Je pense que si tu veux, il y a un certain nombre d'évolutions qui vont se produire immanquablement.
Oui.
Parmi ces évolutions, il y a des problèmes. Si tu veux, tu penses le télétravail, par exemple, plus la marche en travaillant, c'est quelque chose qui va avoir des bénéfices en termes des bénéfices fonciers, je vais dire, pour l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, avoir quelqu'un qui travaille chez lui, c'est réduire un poste de travail qui parfois est coûteux qui mobilise dans certaines zones, tu prends des grandes capitales.
On est d'accord. Ouais,
voilà. Ensuite, qui réduit l'empreinte écologique du travailleur, parce que je sais pas.
Qui presse les gens avec les transports, moi je sais que.
Avec, qui améliore. Alors ouais. Marcher en travaillant, le principal bénéfice de marcher en travaillant pour moi, c'est un bénéfice de bien-être global. Et c'est pas tant un problème de poids. Moi j'ai perdu 20 kilos. Oui. J'ai perdu 20 kilos, mais en fait, j'ai perdu 20 kilos parce que vraiment, j'ai une pratique intensive de cette marche en travaillant et parce que la marche en travaillant est quelque chose qui consomme beaucoup de graisse parce qu'on travaille à des très faibles intensités et contrairement à la course, par exemple, aux intensités plus fortes, on a tendance véritablement à consommer de la graisse directement, donc c'est extrêmement bénéfique là-dessus. Je dis, la marche en travaillant, c'est quelque chose qui permet d'être de meilleure humeur, d'être en plus grande forme. Si c'est fait de chez soi, ça permet d'éviter de prendre des transports, ça permet plein de choses. Donc cet assemblage un peu qui est ma vie quotidienne, c'est vrai que c'est un assemblage que j'ai mis au point dans une volonté d'optimisation de toutes les dimensions de ma vie professionnelle. J'ai pu me le permettre aussi, c'est vrai, parce que j'avais pas de difficulté à trouver des missions, etc. Je reconnais que c'est pas nécessairement.
Oui, voilà. Donc, on résume, tu installes ça depuis un an, tu perds 20 kilos, tu fais 20 kilomètres par jour, environ, un peu moins peut-être. 20 à 30 kilomètres par jour, tu perds 20 kilos sur plusieurs mois, ça fonctionne bien. Et là, il te prend une idée folle qui est de dire, et là je fais court et je te laisse la parole, eh ben, si on marchait en travaillant sur le tapis.
Voilà, alors en fait, c'est un peu ça. Si tu veux, je me suis dit, j'avais envie de sortir un peu de mon bureau. Et donc de concevoir un dispositif qui n'a pas pour vocation de devenir mon principal outil de travail. Faut pas dire le contraire, qu'un dispositif expérimental. Je me suis dit si je sortais de mon bureau et je concevais une sorte de plateau portable qui me permettrait de véhiculer avec moi mon ordinateur portable, différents éléments dont j'avais besoin. Et de fil en aiguille, j'ai monté un projet avec le soutien notamment de la société Withings, qui est un des leaders des objets connectés en Europe, que vous connaissez tous, je suppose, pour les trackers, pour les balances.
On en parle régulièrement, effectivement, aussi, dans Tech.
Voilà, donc j'ai décidé, alors parce que il y a une dimension qu'on a oubliée quand on a abordé quand on a positionné le sujet autour de la marche en travaillant sur tapis, c'est que depuis le départ, je pratique l'automesure, instrumentée et non instrumentée, c'est-à-dire que je me suis vraiment passionné, je me suis vraiment intéressé à ces questions, j'ai été passionné par ces questions de mesure, d'auto-quantification, de prise en compte de données personnelles.
Donc c'est quantified self pour les anglophones, pour ceux qui ont l'habitude de
quantified self, mais même des choses très basiques, comme des mesures de distance, des mesures de sommeil, différentes choses comme ça. Bon, immédiatement, évidemment, j'ai rencontré les produits de Withings, et puis après différentes péripéties, différentes aventures avec les équipes, j'ai fini par monter ce projet avec eux. C'est un projet qu'ils sponsorisent. Et donc, ce projet, qu'est-ce que c'est ? C'est donc un bureau nomade en aluminium qui situe un plateau qui est devant moi, raccroché à un sac à dos et lui-même accroché à un chariot roulant derrière moi. L'ensemble fait à peu près 46 kilos. Donc 20 kilos sur le chariot, qui est un chariot solaire en fait, sur lequel j'ai deux panneaux solaires, j'ai 200 watts. Je vais avoir 200 watts de solaire, on est en train de le finir là au niveau ingénierie. Et donc j'ai un plateau devant moi avec un ordinateur portable, un pare-soleil, des chargeurs, différents chargeurs, un dispositif électrique. Et puis j'ai, pour pouvoir filmer mon périple, qui va être un périple de 180-200 km dans le centre de la France, à la lisière du parc national des Cévennes.
Sur combien de temps ?
Sur une semaine.
Oh, pas
mal. Si tu veux, c'est 20-25 km par jour pendant une semaine avec mon fils Nino qui a 13 ans. Je ne le fais pas tout seul pour des raisons diverses. Bon, ça fait partie aussi de mon projet que de mener tout ce projet-là dans toute sa complexité avec mon fils.
C'est quand même 25 km par jour avec 40 kilos sur le dos, c'est presque.
J'ai pas 40 kilos sur le dos.
Ah,
J'ai
ça
20
va.
kilos dans un chariot derrière.
D'accord.
J'ai 20 kilos dans un chariot derrière et j'ai 26 kilos
D'accord.
répartis entre le dos et la face et le plateau. Je trimballe avec moi un drone Iris de 55 cm avec une caméra GoPro Hero 3 Plus Black Edition capable de filmer en 4K. Je me balade donc avec ça pour produire une sorte de documentation visuelle. Alors, je produis une sorte de documentation à la fois instrumentée du parcours et puis visuelle pour essayer de faire un événement qui parle un peu aux geeks d'une manière générale et qui permette justement de médiatiser un peu cette question fondamentale de santé publique qu'est la sédentarité et ses conséquences. Que sont l'obésité ou d'autres des problèmes cardiovasculaires ou même les cancers, hein, parce que le fait d'être sédentaire, ça accentue fortement la prévalence.
D'accord. Donc là, on a bien parlé de la partie marchande, la partie quantify itself un peu. On va, si tu veux, un peu se focaliser sur la partie drone, qui est aussi hyper intéressante. Donc moi, de ce que je connais de l'Iris, donc c'est un drone open source de 3D robotics
C'est ça.
Qui intègre un processeur Pixo, sans doute celui-ci. Tu l'as construit toi-même ou tu l'as acheté
Alors moi j'ai acheté un Ready to Fly. En fait j'en ai deux.
D'accord.
Hein. Pour être
D'accord.
honnête j'en ai deux. Alors quand je dis j'ai acheté, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait j'ai deux sponsors. J'ai un sponsor qui est Withings, vous l'avez compris, et j'ai un deuxième sponsor qui est dans le monde des drones, qui s'appelle Escadrone.
D'accord.
Escadrone.com. On mettra le lien, je suppose.
Oui.
Après
On n'est
ça
pas
juste.
tout seigneur. Hein.
Voilà. Et donc j'ai un de mes Iris qui est fourni par mon sponsor qui m'assiste dans tout un tas de démarches et très complexes. Et donc ce sont des Iris ready to, ce sont des produits ready to fly
D'accord.
vraiment directement utilisables, produits modifiés parce que le contexte dans lequel je les utilise ne permettait pas de les utiliser tels quels. Alors
C'est vrai
c'est
qu'il y a
un
des intérêts pour pour les auditeurs qui ne connaissent pas trop ce secteur-là, des drones de 3D robotique et de l'Iris en particulier, ou en tout cas de tous les drones qui sont basés sur le processeur de vol Pixhawk, c'est qu'il est
Contrôleur de
possible, le contrôleur de vol, pardon, Pixhawk, c'est qu'il est possible de mettre à jour le firmware, voire même de modifier le code pour peu qu'on en ait les compétences. Donc là, c'est un peu risqué, parce qu'on peut casser le drone éventuellement, mais de modifier le contrôleur pour ajouter des fonctionnalités et notamment ajouter des modes de vol. Puisque tout
Exact.
ceci est open source.
Voilà, alors c'est ajouter des modes de vol, mais aussi programmer. Alors le Pixhawk, pour le résumer rapidement, ce que c'est une plateforme matérielle qui fait un environnement d'exécution qui tourne sous Linux. En fait, Nutix, qui est la version temps réel de Linux. Donc c'est une plateforme embarquée avec tout un tas de senseurs à l'intérieur.
C'est un Arduino-like un peu, non, ou pas?
Ah non, au départ, les premières générations de produits de chez 3DR étaient des produits qui s'appuyaient sur la plateforme Arduino, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a Arducopter,
Oui,
et
ok.
que le nom vient de cela, et donc tu as des produits comme par exemple l'APM qui est justement à base d'Arduino. Aujourd'hui, le Pixhawk, c'est un produit qui est véritablement un produit Linux. Et ce produit est assez complexe. Il a été mis au point notamment par une équipe, par Lawrence Mayer, par d'autres, par une équipe européenne, entre autres, et soutenu par 3DR. C'est un projet en effet qui est open source, open hardware, c'est-à-dire il y a des clones qui existent, il y a toute une communauté, il y a une communauté énorme d'utilisateurs, puisqu'il y a à peu près 55 000 personnes qui sont inscrites sur DI Drones, la communauté de Chris Anderson. Chris Anderson, ex-rédac chef de Wired, qui a fondé 3D Robotics.
Voilà, je voulais en dire un mot, mais donc c'est bien, c'est pour ça que
Vas-y.
tu l'as fait.
Ouais.
Pour information, 3D Robotics, bon, c'est une boîte qui fait des drones, Open source, et ça a été un des. Ça a fait pas mal de buzz à un moment donné, parce que Chris Anderson, de Wired, au moment où il a quitté Wired, ou c'était un peu avant, peut-être a fondé justement 3D Robotics. Donc.
Avec un jeune hispano, il s'est associé avec un type qui bricolait des drones dans son coin, et ils ont monté une société qui aujourd'hui est le deuxième vendeur américain de drones civils, et donc qui est déjà un joli business. Mais surtout, ils ont monté la plus grande communauté open source au monde dans ce domaine, avec des acteurs dans le champ de la recherche, des acteurs dans plein de domaines. Donc pour moi, c'était un choix absolument évident que d'utiliser un produit comme celui-là, parce que je voulais marcher en travaillant, en filmant, mais je voulais pas que ce soit dangereux, si tu veux. Je voulais que ça soit performant, qu'il y ait un véritable intérêt, que cette caméra volante soit intéressante. Et par exemple, pour dire les choses simplement, j'avais pas envie que ça soit du follow me, j'avais pas envie qu'elle me filme de dos. J'avais envie qu'elle me précède, j'avais envie de pouvoir faire des travelling sur des points d'intérêt, j'avais envie de pouvoir avoir un contrôle un peu plus fin du mécanisme, lui donner un certain niveau d'autonomie, mais avoir un contrôle un peu plus fin. Donc, dans ce projet, est venu se greffer un sous-projet d'une assez grande complexité, qui était celui de mettre au point un mode de vol, comme tu disais, qui tourne sous Pixox. Alors, il s'avère qu'il tourne aussi sur APM, il tourne sur d'autres plateformes matérielles, mais on ne va pas rentrer dans les détails. De cela, enfin qui tourne sous ce qu'on appelle APM Copter, qui est la version, qui est le logiciel de vol autonome, un des logiciels de vol autonome qu'on peut faire tourner sur cette plateforme matérielle-là. Et donc, on a travaillé avec un Français. J'ai eu la chance qu'il y ait un Français dans le sud de la France qui soit un développeur qui travaille activement qui contribue activement sur le projet.
Ça l'embête qu'on le nomme, tu penses, ou...
Non, pas du tout. Il s'appelle Julien Dubois.
D'accord.
Julien Dubois, il travaille dans le domaine des lasers pulsés. Donc, si tu veux, il a pas d'activité dans le domaine du drone autre que ses activités personnelles. Mais par contre, c'est un jeune ingénieur qui est un véritable passionné de ces plateformes robotiques volantes et qui est un bon spécialiste de la question et qui m'a aidé à mettre au point le dispositif général de ce projet, qui est un dispositif vraiment assez complexe. Même simplement le cadre qui est devant moi, il m'a fallu plusieurs mois pour mettre au point le dispositif en question, à nouveau avec des composants open source. Le cadre est fabriqué avec des profils MakerBeam, qui sont des profils open source qu'on utilise en robotique, notamment. Donc, j'ai essayé au maximum d'utiliser des systèmes non propriétaires pour mettre au point ce projet. Et j'ai essayé aussi d'avoir une. Donc, dans ce cadre-là, j'ai rencontré mon sponsor Escadrone, qui était un des seuls Français, un des seuls acteurs dans le monde du drone, un téléopérateur et constructeur de drones, à utiliser la plateforme APM. Je rentre, il y a différents niveaux. Bon, ils utilisent pour leur drone l'équivalent du Pixhawk. Et donc, de fil en aiguille, on a travaillé sur toutes ces dimensions pour faire qu'il soit possible donc que je marche, alors a priori 7 jours, avec un ordinateur devant moi, avec tous les risques de collision qu'il peut y avoir, avec un ordinateur devant moi, en faisant pas vraiment de la programmation, je dois être honnête, plutôt de l'animation sur réseaux sociaux, de la documentation, des petites tâches un peu plus discontinues que de la vraie programmation, mais en ayant quand même une véritable activité computationnelle, même si ça ne sera pas véritablement orienté au projet. En faisant ça, tout en pilotant un drone qui quand même peut aller à 40 km/h, pèse presque 2 kilos,
C'est toi qui le pilote ou il s'autopilote?
c'est entre les deux, on est en semi. En fait, si tu veux, je fais. Hein, il est. Alors, le dispositif drone lui-même, tel qu'on l'a mis au point, je te l'explique sommairement. Alors, matériellement, c'est un drone, donc j'ai dit de 50 cm, 1,5 kg en gros, auquel on a rajouté une nacelle ce qu'on appelle une gimbal,
gimbal.
Qui est une nacelle avec un, si tu veux, qui permet de stabiliser l'image, qui oui. compense en fait la, qui compense les mouvements du drone et les vibrations, et donc qui est un système avec plusieurs moteurs brushless qui permettent d'équilibrer et de faire que l'image ne bouge pas. Et que, voilà. Donc ça, c'est le dispositif matériel avec une GoPro que tout le monde connaît, bon, qui est la GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Ça constitue la plateforme matérielle. Du point de vue, évidemment, il y a aussi les télécommandes. Alors pareil, la télécommande, c'est une télécommande open source, open hardware, oui, 9XR.
9XR, ouais. Ouais,
c'est très important, parce qu'il fallait pouvoir programmer la télécommande pour qu'elle puisse se comporter différemment d'une télécommande normale. D'accord. Donc en fait, là encore, on a un dispositif open source.
Mmh. Voilà, bon, et celle-ci, tu l'as achetée aussi sur le site 3DR?
Non, en fait, j'ai acheté chez... ce projet, bon, outre le fait que c'est un projet qui coûte très cher, j'ai honte de dire combien il coûte, c'est vraiment un projet extrêmement coûteux au niveau de sa mise au point. Ce projet, j'ai dû acheter chez au moins 10 fournisseurs différents, différents composants. Ça va du chariot roulant que j'ai acheté en Hollande, en passant par des choses que j'ai achetées évidemment en Chine, aux États-Unis, au Canada, un peu en Allemagne, oui. un peu partout, et en France aussi, en Belgique. Donc tu vois, j'ai vraiment, ça a été vraiment. Donc les achats ont été très complexes. Donc le truc, c'est que j'ai, oui, donc on a cette plateforme. Je parlais de sa plateforme matérielle, et maintenant qu'est-ce que c'est le un peu la nouveauté de ce mode de pilotage qu'on a mis au point, c'est que on a rajouté matériellement un sonar en dessous de l'iris. Donc enfin, le Pixo que je disais, c'est un Linux, mais c'est aussi un ensemble d'interfaces matérielles qui permettent de brancher dessus voilà. des senseurs divers. Donc par défaut, il arrive avec un accéléromètre, un compas, un GPS, différents composants comme ça qui sont les composants de base des drones un peu avancés. Et en plus de ça, nous, on a rajouté un sonar. On a rajouté un sonar Max Botix, qui est un sonar qui va permettre de contrôler finement la distance sol. Parce que quand tu marches en montagne, le problème, c'est que si ton drone, il maintient son altitude en vérifiant la pression, puisqu'en gros, si tu veux, pour connaître l'altitude, en général, on vérifie la pression. Et le problème, c'est que si tu changes pas d'altitude quand tu montes, ton drone, il va dans le... Si tu vas tout droit, tu ne changes pas d'altitude, oui. ton drone, il fonce sur le sol.
Oui, exactement. Donc,
dès que tu es dans un contexte où tu varies la position du pilote et la position du drone continuellement, tu es en nécessité d'avoir de contrôler la distance sol. Oui. Ce qu'on a fait, donc, ça c'est assez classique, on a intégré, bon, enfin, ce n'était pas supporté dans Pixhawk, donc on a... Il y a différentes péripéties, mais qui ne sont pas très importantes. Donc, on a mis matériellement un sonar. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, on a inventé un mode de vol, qui est un mode de vol qui est semi-automatique, où en fait, je fixe un cap, j'ai un potentiel, je fixe une hauteur, je fixe une vitesse, on va dire ça comme ça pour simplifier, avec différentes commandes. Et le système est stable. C'est-à-dire qu'en fait, si je dis je marche à 4 km/h, il va avancer à 4 km/h. Si je lui dis tu restes à 3 mètres du sol, il va rester à 3 mètres du sol. Et si je lui fixe un cap en lui disant tu vas dans telle direction, il va maintenir cette direction.
Il va maintenir le cap, d'accord.
Ensuite, ce qui se passe, c'est que ce mode, on a rajouté la possibilité de moduler le cap. Ce qui permet juste avec un potentiomètre, si je suis par exemple dans un tournant, il suffit que je module avec un petit potentiomètre, ce qui peut se faire en marchant et en faisant même autre chose. Je peux moduler et le faire tourner un peu. Il suit, si je monte sur un rocher, si le drone passe sur un rocher, il va s'élever avec le sonar. Si tu veux, si par exemple, il va rester toujours à distance constante de l'obstacle qui est en dessous.
Ça me fait penser un peu au mode, alors là, l'altitude par rapport au sol, en moins au mode drift, qui permet d'avoir aussi un mode qui est simplifié, qui est plus proche de ce qu'on voit avec des avions.
Tout à fait. Alors en fait, on a utilisé un sonar parce qu'on avait besoin d'une grande précision verticale. Hein. On peut, les modes, comme ce que tu indiques, les modes qu'on appelle loiter, ou différentes, il y a différentes nomenclatures selon les fabricants, selon les systèmes qu'on utilise, mais il y a beaucoup de modes assistés, en effet, où la hauteur est prétendument constante.
Oui.
Mais en réalité, cette hauteur, elle provient souvent d'une information GPS, d'information, et elle n'est pas précise du tout. Et elle n'est pas dynamique. C'est-à-dire que si, par exemple, tu as quelque chose qui arrive en dessous et qui est dynamique, ce n'est pas détecté. On a vraiment besoin de détecter. Ça, donc, on a mis au point cet aspect-là. Et on a mis au point ce système en faisant que la caméra, pendant que ce comportement que tu as compris, qui est semi-auto, qui est assez simple, on a fait en sorte qu'on puisse retourner la caméra comme on voulait. Tu peux donc, je peux très bien braquer la caméra sur moi-même, il continue à aller dans la même direction. Ce qui permet en fait, ce qui permet de faire quoi? Ce drone, c'est une machine à travelling. En gros, c'est une machine qui fabrique des travelling. Tu fixes la hauteur, tu fixes le truc, et ça marche presque tout seul. C'est pas un mode de vol qui est très spectaculaire par rapport à ce que font donc Julien Dubois, mon ingé drone. A fait un mode qui s'appelle le mode Stabilize ou Post, je ne sais plus comment ils veulent le rebaptiser là dernièrement. Bon, son mode était plus spectaculaire que celui-là, mais par contre, c'est un mode qui est réellement adapté à la situation complexe dans laquelle j'évolue, à savoir sur des chemins tumultueux avec des arbres au-dessus, un contexte imprévisible, c'est-à-dire des gens qui peuvent arriver, etc.
Ouais.
Donc ça a été, c'est pas encore tout à fait fini, on est au point, ça marche, hein, on peut pas dire que ça marche pas, mais on est encore en ajustage et c'est super complexe à mettre au point, parce que je suis avec j'ai tout ce poids derrière moi, devant, j'ai tout le dispositif, il faut pas que je me prenne les pieds pendant que je suis en train de marcher dans quelque chose, enfin c'est, donc la somme de tous ces points-là fait que c'est assez complexe d'intégrer du point de vue de l'ingénierie toutes les dimensions que l'on a et d'obtenir qu'on arrive à piloter ce drone. De plus, comme j'adore les défis, j'ai décidé de le faire en autonomie énergétique. Donc, il faut savoir que les drones consomment énormément.
Oui.
Un drone, donc j'ai décidé de le faire en autonomie énergétique. Alors, pour être très honnête auprès des auditeurs, je vais voler 2 heures par jour. C'est impossible d'être en autonomie énergétique toute la journée. Un drone comme ça, ça consomme une telle quantité d'énergie qu'il faudrait un jeu de 20 batteries et du courant permanent pour obtenir qu'on puisse être véritablement en autonomie. Moi, je vole avec 7 batteries et un système de recharge qui me permet de recharger 4 batteries solairement, mais en plusieurs heures. Donc, ça me permet de faire 2 cycles et donc d'atteindre environ 2 heures, 2 cycles complets de charge, et d'atteindre 2 heures en autonomie avec mon ordinateur portable qui est lui aussi alimenté par ce système solaire qui est derrière moi, et puis les batteries des drones lipopolymères, les batteries polymères qui sont chargées par cela. Voilà. Donc c'est un projet. Alors après, on parle de la dimension de la marche. De la dimension du dispositif, quoi. Il y a tout aussi toute l'organisation de ce projet qui est un projet très complexe du point de vue des interactions avec les différents environnements. Alors, ne serait-ce que juridique, tu sais que j'ai passé ma licence de pilote, j'ai dû passer mon brevet théorique ULM.
Donc, tu l'as, ça y est, c'est bon.
Je l'ai, ouais.
D'accord.
J'ai dû passer ma licence et puis je suis encore, donc Escadrone, mon partenaire, m'aide à faire certifier mon matériel parce qu'en fait en France, on ne peut pas voler. Le fait que l'IRIS, tu es obligé de le faire certifier ton matériel. Alors, tu as 3 niveaux en fait, tu es obligé de faire que le télépilote soit réputé compétent. Donc ça, c'est à peu près bon, c'est-à-dire que non seulement j'ai acquis la... Mais en plus, j'ai maintenant la reconnaissance officielle, j'ai passé les examens, etc. Tu as le drone qui doit être certifié par la direction de l'aviation civile.
Déjà, c'est...
En fonction de l'utilisation, c'est-à-dire que moi, là, pour l'instant, je suis en phase de validation sur le scénario S1 qui me permet d'opérer en campagne, on va dire, globalement. en campagne à vue à 100 mètres de l'utilisateur, et je ferai les accréditations suivantes dans quelques semaines. Donc j'ai le droit de. Il faut que je. En plus de ça, il faut avoir une licence d'exploitant pour avoir le droit d'exploiter les images, parce que sinon tu n'as pas le droit d'exploiter les images que tu produis si tu n'es pas comme ça. Donc tu as trois niveaux, tu as le drone, t'as le téléopérateur, t'as le drone et t'as la problématique de l'exploitation pour pouvoir tout simplement filmer quand tu marches avec un drone. Comme je suis très têtu et que j'étais extrêmement motivé, je suis allé jusqu'au bout de la démarche. J'attends les quelques documents encore de la DGAC, mais qui ne devraient pas normalement poser de problème. Et donc, on a passé énormément de temps sur ces aspects-là. J'ai dû changer mon parcours parce que je me suis vu refuser de voler sur la partie où j'avais prévu d'aller. Donc, j'ai
eu. Pour quelle raison ? Ils t'ont donné les raisons ou même pas ?
Non, pas vraiment. En fait, c'est dans le parc national des Cévennes. Le truc, c'est qu'ils sont très hostiles, je pense, aux technologies. Ils ont pas compris véritablement le sens, peut-être, de mon projet.
D'accord.
Ils ont cru que j'étais un obsédé du travail, peut-être, qui fonctionnait en mode ultra connecté. Alors que ce que j'essaie de faire, c'est de faire sortir et de faire bouger les geeks de la planète. Mmh. Et donc, peut-être aussi de leur faire apprécier même la marche non connectée. Je veux dire, c'est ma démarche, elle n'est pas du tout. Elle était une. Voilà, c'est juste un peu spectaculaire pour essayer d'attirer l'attention d'un public qui en a marre qu'on le stigmatise avec des histoires, vous êtes trop gros, vous êtes en mauvaise santé, etc., qui a envie d'avoir des stimulations un peu positives par rapport à tout ça.
Oui, moi je trouve ce qui est super intéressant, c'est un mariage, un assemblage de technologies, de modes de vie aussi un peu. C'est super intéressant comme projet, c'est ambitieux parce qu'il y a pas mal de boulot hein, pour arriver à ce que. Moi, ça mobilise autant de la créativité que de l'ingénierie, parce qu'il faut assembler tout ça ça permet d'explorer des sujets qu'on n'a pas l'occasion d'explorer.
T'es obligé d'y aller, quoi, parce que si tu veux, par exemple, tu vois, moi, je n'ai aucune compétence en ingénierie mécanique, parce que, je veux dire, c'est comme ça, on ne peut pas avoir tout. J'en avais aucune. Et ben là, je me suis retrouvé à concevoir mon truc. Bon, j'ai un peu d'assistance et tout, mais c'est quand même extrêmement difficile d'intégrer tout. Il y a des problématiques d'ergonomie, il y a des problématiques d'électricité. Moi, je comprends rien à l'électricité. Il a fallu que je comprenne. Il a fallu que je me mette un peu. Tu vois, après, t'as des problématiques d'électronique. Après, t'as des problématiques de vidéo. Je veux dire, tout simplement, quand t'as une GoPro et que tu dois faire des montages, tu vois, t'as tout, en fait. Ouais. Et au travers d'un projet comme celui-là, et c'est pour ça que c'est exemplaire, et c'est pour ça que je le fais avec mon fils, hein, si tu veux, que je ne le fais pas tout seul. Je répète, cette marche, c'est avec un drone et c'est avec mon fils. Qui intervient dans toutes les phases, parce que ce que je voulais, voilà, c'est qu'il comprenne comment fonctionnaient ces systèmes, qu'il apprenne.
Quel âge il a ?
13 ans. Donc, j'en ai un grand qui a 20 ans et un qui a 13 ans. Donc, j'emmène celui qui a 13 ans sur le parcours. Et donc, il a suivi depuis le premier jour toutes les étapes du projet. Ça veut dire qu'il suit tous les processus d'ingénierie. On a eu de la casse, par exemple. On a eu ce qu'on appelle un ESC qui a grillé sur un des iris. C'est le système de contrôle des moteurs. Qui a grillé sur un iris. Bon, ben, il a suivi toutes les phases d'ingénierie. On a dû discuter avec la R&D de 3D Robotics pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Voilà, donc toutes ces phases, il les a suivies et finalement, ça a fait un projet.
Par curiosité, comment tu as fait ? Tu l'as changé toi-même ou
Comment ?
Comment tu as fait là pour le SC, pour le remplacer ? Tu en as racheté un chez 3DR et tu l'as rendu.
Alors en fait, je dois dire que je suis sur ce coup-là, je suis vraiment épaulé par mes amis de Escadrone.
D'accord, donc ils l'ont fait.
Ils ont commandé chez 3DR et ils ont fait. Je leur avais quand on a fait une jonction à Grenoble, je leur ai remis le drone défectueux, ils l'ont soudé, ils me l'ont envoyé. Enfin, parce que c'est pas très difficile. Moi, j'avais changé un moteur. Il n'y a pas de difficulté particulière. Mais il y a plein d'astuces. Je sais, par exemple, suite aux différentes difficultés qu'il y a eu, parce que quand l'ESC se casse, Il y a eu deux crashs hein, qui ont été liés à ces ESC, c'est-à-dire quand tu n'as plus de moteur qui fonctionnait, il y a eu deux crashs, donc il y a eu de la casse un peu autour. Donc ils sont intervenus surtout parce qu'il y avait d'autres aspects, si tu veux. Il y avait le fait de remettre l'ESC, mais il y avait d'autres aspects, il fallait vraiment contrôler que l'appareil reste très fiable.
Mais je te pose la question pour des raisons purement, enfin pas égoïstes, mais personnelles, c'est que je suis un peu dans le trip de vouloir me construire un drone avec en partant d'un F330 qui est un châssis assez classique, on va dire, et en intégrant dessus justement un Pixo qu'avec avec la télécommande dont tu as parlé tout à l'heure, OpenSource.
Neuf
Donc je suis toujours voilà. Donc je suis intéressé pour savoir
Écoute,
bah, tiens, exactement avoir des retours d'expérience, des gens qui l'ont
moi
déjà fait.
je te conseille, Fabrice, je te conseille, moi je veux pas polémiquer, mais en première action, je conseille pas d'utiliser le Pixhawk. C'est un environnement qui est trop avancé. Je considère que c'est plus facile pour les gens qui ont, sur la première expérience, d'utiliser un APM.
Un APM, hein, d'accord.
C'est pareil, mais en fait, si tu veux, le problème, c'est que tu es dans l'environnement Arduino, c'est plus basique. Le Pixhawk, il a encore des problèmes.
D'accord.
Il a pas des problèmes, mais en fait, il est beaucoup plus complexe.
En fait, il y a beaucoup plus de possibilités, il y a, de ce que j'ai compris, il y a un plus fort potentiel,
Il y
mais le
aura.
logiciel n'est pas encore là, quoi. Le hardware est prêt pour beaucoup de choses. C'est vrai que
Non,
le
mais il est prêt,
logiciel, il
mais
n'est pas
en fait, si
encore
tu veux,
là.
le truc, c'est que c'est la plateforme, franchement, la plus ambitieuse du moment.
Voilà.
C'est un véritable ordinateur volant.
Oui, ouais.
C'est un UTX, c'est un Linux qui vole, hein, je veux dire,
Ouais.
faut le dire. Le truc, c'est que du coup, tu as des problématiques de driver. Tu prends par exemple le sonar Maxbotix, là, on a fait des pieds et des mains pour faire que les équipes nous livrent le portage parce que c'est pas du tout évident d'avoir
Ouais.
accès. Si t'as pas un driver, imagine par exemple tu veux développer pour du Linux temps réel un driver sur tel ou tel truc, c'est vraiment pas simple. Et donc il y a des équipes, il y a des collaborations internationales autour de ce projet qui sont avec des gens brillantissimes hein, qui participent. Le problème, c'est que Pixhawk, c'est tellement ambitieux que pour l'instant, c'est à réserver, à mon avis, aux experts. C'est mon point de vue.
Ouais,
Moi, si.
ok, j'entends bien ce que tu dis. Maintenant, comme j'ai aussi, en fait, je vais pas démarrer avec ça, je vais démarrer avec un drone beaucoup plus classique, on va dire, et déjà à RTF. Après, l'idée, c'est vraiment de faire moi-même, de regarder. Donc, je verrai à ce moment-là, une fois que j'aurai un peu joué avec l'autre, et en fonction du moment. Mais moi, j'aime bien les challenges, donc
Non mais
tu m'as
le
pas fait
Pixhawk,
assez peur encore là. Mais bon, on va voir.
non, ça fait pas peur. Non mais le truc c'est que si tu veux, le problème c'est voir quel est le rapport coût-bénéfice si tu veux. Le Pixhawk aujourd'hui, il est intégré dans l'Iris, donc aujourd'hui son coût effectif,
Oui.
c'est un produit qui est pas cher quand tu l'achètes
Oui.
intégré à une solution de 3DR. Par contre, quand tu l'achètes tout seul, déjà c'est un produit qui est assez cher.
Ben
Et
c'est
ce
moi, je crois que j'ai trouvé à 300 euros avec la partie
ouais.
GPS, tout intégré.
Enfin, c'est ça. Le truc, c'est que c'est déjà un truc un mécanisme de vol qui, c'est déjà un truc copieux quand même. Ça coûte un
Oui,
peu
c'est clair.
d'argent.
Ouais.
Et secondo, ce qui se passe, c'est que en fait, la logique programmatique qui est derrière, je te dis, elle est autant c'est trivial de modifier l'environnement type APM, autant celui-là, ça ne l'est pas. Alors, moi, je te dis ça.
Ouais, c'est
Je sais que les gars qui travaillent, ils travaillent très activement. Bon, il y a le fondateur, par exemple, il y a le type qui a écrit Samba. Tu connais Samba, le système de
oui,
partage de
bien
fichiers?
sûr. Ouais.
Il y a le type qui a créé Samba, par exemple, qui s'appelle Andrew Tridgell, qui développe, par exemple, pour Pixhawk des choses. Il y a des vraies pointures du monde de l'open source qui interviennent. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours le temps d'intervenir sur tout. Et que donc, faut t'attendre. Si tu veux faire un truc particulier, tu peux te retrouver à attendre un an avant que la communauté elle ait absorbé telle ou telle contrainte qui pouvait te gêner.
Oui. Oh,
Mais
ouais.
c'est vrai que c'est un monde passionnant. Ce projet m'a amené dans ce monde que j'ignorais complètement. J'avais juste regardé un peu de loin ce qui se passait. Je suis rentré en plein dedans et c'est véritablement passionnant. Je pense que tous les auditeurs de Nipdev devraient jeter un coup d'œil au moins sur la communauté DIDrones.com
Ouais.
pour voir un peu le
On mettra les
dynamisme.
liens aussi dans les notes de
Ouais.
l'émission.
pour voir le dynamisme de ces communautés qui sont un mélange incroyable de très bigarrés où tu as de tout. Genre, t'as des photographes qui côtoient des gens qui font de la mesure de l'analyse, par exemple,
oui,
en
mesure artificielle.
Ou qui vont côtoyer des gens qui font de l'aéronautique. Il y a véritablement une émulation dans cette communauté qui est extraordinaire. Si tu rajoutes à ça le fait que le domaine en plus étant totalement émergent, il y a une immense complexité, que ce soit juridique, tous les acteurs, il y a beaucoup d'acteurs. On est un peu comme dans les années 80 dans la micro-informatique où tu avais plein de
Exactement.
Gens dans tous les sens. Au niveau des drones, on est un peu dans cette étape et c'est toujours très enthousiasmant. Ouais. Moi, j'ai été super enthousiasmé par le développement des smartphones et du développement mobile qui reste mon métier. Et je trouve que le monde des drones est vraiment absolument passionnant actuellement.
Ouais. Moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que on est autant avec les smartphones, il n'était pas évident de se construire soi-même sur smartphone. Après, on pouvait faire du dev sur un device qui était très différent, qui offrait énormément de possibilités, mais sur la partie hardware, il n'y avait pas énormément de moyens de travailler dessus.
Mais c'est sûr.
Là, on est sur la partie drone, un peu dans une période où il y a énormément de choses à pouvoir. Alors, c'est vrai qu'il faut un peu d'expertise, il faut avoir envie d'investir du temps, et il faut que ce soit une passion, faut avoir envie, parce que c'est assez complexe. Et ça permet d'ouvrir des champs de possibilités qui sont...
C'est vrai,
important et qui sont très intéressants, je trouve.
T'as raison, et en plus, ce qui se passe, c'est que on n'est pas là pour empiler des domaines d'intérêt. Mais si tu veux, tu regardes dans le domaine des drones, il y a outre tout un tas de points qu'on a adressés, il y a évidemment le domaine de l'impression 3D qui est très présent, par exemple. Mmh. Puisqu'il y a beaucoup de problématiques de fabrication de pièces sur mesure. Il y a le domaine du traitement de l'information qui est très présent. Je prends par exemple un domaine qu'on appelle la photogrammétrie, qui est la recomposition de modèles 3D à partir de flots d'images ou de mesures. C'est un domaine qui évolue énormément, qui est absolument passionnant du point de vue de l'ingénierie logicielle. Hein. Et en fait, tu as tout. Toutes les disciplines qui se retrouvent, qui se mêlent là-dedans. Alors, c'est vrai que j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Et moi, c'est peut-être 50%, en fait, en termes de temps, la dimension autour du drone représente peut-être 50 à 60% du temps que j'aurais passé en ingénierie sur ce projet de marche et constitue quelque chose qui va me suivre, je crois, longtemps parce que c'est... C'est tout à fait. Alors après, le résultat lui-même, les images sont bluffantes. Quand tu prends des... moi, je n'ai pas encore publié trop d'images parce qu'on essaie de faire du teasing. On ne veut pas trop dévoiler tout. Mais les images, on peut faire des images hyper spectaculaires, notamment avec mon dispositif, parce que le fait de pouvoir faire de pouvoir générer un travelling comme ça, quand le site est somptueux, ça donne des résultats qui sont sympas. Mais en plus, toute la chaîne est vraiment passionnante, quoi. C'est ce que tu disais. Ça va de la partie logicielle, en passant par cette possibilité de communiquer avec le monde directement avec des senseurs, la partie modélisation, la partie aéronautique. Moi, en révisant les brevets théoriques et tout, je pensais pas du tout que ces sujets pourraient m'intéresser. Mais j'ai trouvé passionnant de...
Oui, moi, c'est pareil, en fait, c'est vrai. Hein. De loin, en fait, les drones, c'est cool, etc. Mais c'est vrai que quand tu commences à regarder, en fait, c'est très accessible. Alors, c'est vrai que si tu veux, les drones, tu en as vite pour 1000 euros, si tu veux avoir quelque chose de complet, etc. Mais après, je trouve que... Moi, j'avais commencé avec des tout petits, des micros. Mm-hmm. On en avait un peu parlé déjà, d'ailleurs, on a échangé là-dessus. Avec des tout petits qui coûtent autour de 100 euros, on a déjà quelque chose qu'on peut faire voler, voire même... On peut mettre une caméra et il y a aussi des initiatives Bitcraze notamment qui sont aussi un peu plus, qui permettent soi-même de monter son mini drone. Et déjà là, ça permet de mettre un pied dans la techno et c'est quelque chose qui est balbutiant. Et la question aussi, c'est bon, on parle de drone, c'est sympa, ça vole, mais après, alors je sais pas, mais on peut imaginer que du côté des robots plus classiques, on est un peu la même mouvance, la même dynamique.
C'est la même communauté. Hein.
Voilà, c'est la même communauté.
Ah non, mais elle s'interpénètre aujourd'hui, si tu veux. Si tu prends par exemple un domaine comme les rovers, tout ce qui est véhicule autonome,
voilà.
Les voitures autonomes, c'est la même communauté. Elle s'intersecte complètement. Il y a trois. Elle est séparée, la communauté est coupée en trois morceaux bien identifiés. Enfin, sur The Hydrons, qui est copter, rover et plane.
Exactement, ouais.
Mais derrière ça, rover, tu es dans les robots autonomes, les véhicules autonomes type voiture autonome, donc on sait quel va être l'impact dans les 20 ans à venir. On sait très bien que la plupart des voitures auront des dispositifs soit d'assistance, soit seront totalement autonomes. Parce que actuellement, quand tu expérimentes avec les plateformes type justement APM Copter, APM Rover, toutes ces plateformes-là dont on a parlé, ou avec le Pixok et tout, tu touches déjà du doigt les problématiques de cette mise en. Alors, ça touche aussi la question des objets connectés, finalement, hein, parce que ça touche la question de l'interconnexion de tous les systèmes au travers de plateformes logicielles et matérielles intégrées comme celle-là. Et c'est vrai que tu regardes le rover, un rover qui se déplace tout seul avec un lidar. Tu sais, c'est un laser un lidar, en fait, c'est un laser qui fait de la mesure de précision à grande fréquence pour justement faire de la détection de collision, des choses comme ça. Donc, dans la communauté en question, t'as des gens qui font des expérimentations actuellement qui sont absolument passionnantes. Et c'est vrai que c'est alors après on peut pas passer sous silence non plus que c'est une communauté qui porte aussi des pratiques extrêmement dangereuses, ne serait-ce que pour les autres. C'est vrai que quand on vole avec un drone aujourd'hui, c'est dangereux, même un petit. Je sais pas si tu t'es pris ton
j'ai eu quelques griffures sur le nez à cause du robot.
Déjà avec un petit, je t'assure qu'avec un gros.
Ah, j'aurais été scalpé. Bon, j'ai plus beaucoup de cheveux, peut-être ça aurait pas fait beaucoup de différence, mais c'est vrai et c'est pour ça que c'est bien aussi de démarrer, je pense, avec un petit, ne serait-ce que pour prendre conscience des problématiques de sécurité et de voir déjà des hélices, des toutes petites hélices qui tournent à une vitesse de, je sais pas, c'est 800, 700, 800 kVM. Quand tu mets ça sur un gros truc, c'est vraiment dangereux.
Il y a des débutants qui achètent des belles hélices en carbone sur un beau truc et tout, ils le touchent, ils se coupent les doigts. Hein. C'est un domaine. C'est un domaine qui demande beaucoup de prudence, beaucoup de sagesse et aussi beaucoup de. Peut-être un peu de savoir-vivre, quoi, parce que les gens se mettent à filmer tout le monde et n'importe qui, à aller dans n'importe quel contexte. Voilà. Cette extrême liberté que procure. Ces dispositifs, elle doit être modulée, elle doit être modérée, elle doit être maîtrisée. Moi, je suis ravi d'avoir, dans le cadre de ce projet de marche, intégré ce composant-là, qui est devenu un composant majeur, ne serait-ce que parce que c'est quelque chose qui a véritablement envoûté mon gamin. Alors, pour les enfants, c'est un attracteur fou. C'est un facteur hyper important pour moi que de mettre en œuvre quelque chose qui intéresse les enfants, qui intéresse tout le monde, au fond. Et c'est vrai que quand tu te balades avec un drone, on était, par exemple, près du Mont Blanc, il y a quelques jours, pour marcher avec Jean-Luc Loiseau vers Annecy. Et on marchait, il y a un chercheur qui nous a croisés, il a publié un article, il nous a filmé, on a discuté, parce qu'il y a une sorte de pouvoir... de fascination de ces petits dispositifs. Et c'est vrai que ce qui l'a attiré énormément, bon, il y avait peut-être la totalité du truc, quoi, hein, un type comme ça au milieu de la montagne avec un avec un cadre en train de marcher, un drone qui vole devant lui, c'était peut-être un peu intriguant, mais c'est vrai que j'ai vu le pouvoir de fascination de ces dispositifs et l'intérêt profond qu'ils suscitent, les questions que ça amène, enfin voilà. Donc c'est un véritable attracteur et c'est quelque chose qui permet de véritablement de croiser toutes les dimensions. Et c'est vrai qu'un drone, c'est quand même un ordinateur qui marche ou un ordinateur qui se déplace, quoi. C'est véritablement dans cette logique de dynamique. C'était bien.
Je trouve ce qui est super intéressant, c'est un vrai concentré de technologie qui reste abordable. Alors, il faut de l'expertise, il faut passer du temps, il faut mettre un peu d'argent. Mais ce n'est pas complètement hors de portée. Hein. C'est pas complètement
hors de portée. Oui, tu as raison. T'as raison de le dire, tu peux entre une initiation à quelques centaines d'euros
Voilà.
Y compris avec des kits, est tout à fait possible. Après, quand on commence à monter, évidemment, en gamme, quand on commence à faire ça, ça coûte assez vite cher. Et c'est vrai que si tu veux en faire ton métier, quand tu.
Après,
Moi, par exemple,
oui.
mes amis d'escadrone, leurs machines, ce sont des machines qui coûtent 8 000 euros, 9 000 euros.
Voilà. Oui.
Et sans parler des dispositifs qu'on met dessus, parce qu'évidemment,
Mais
si tu mets une
moi,
caméra en gamme.
je vois quand tu là, je regardais pour un dispositif qui est qu'on peut utiliser, on peut faire déjà pas mal de choses assez polyvalent. Un des gros éléments pour, quand on a une caméra, c'est le prix de la GoPro. Un des facteurs de coût importants, c'est la GoPro qui coûte dans les 300-400 euros,
Ouais.
autour de 300 euros. C'est un des éléments non négligeables.
Oui, mais
Après, il y a
enfin,
tout le
si tu veux
reste,
faire.
mais bon, voilà.
La GoPro, c'est bien parce que tu peux faire déjà des images sympathiques.
Ouais.
La réalité, c'est que pour faire des images de qualité audiovisuelle et tout, ça coûte encore beaucoup plus
Ah,
cher. Du coup,
j'imagine.
là, tu es obligé d'avoir un. C'est bien, hein, franchement, moi, la GoPro, ça produit des images super. Si tu veux, je te montrerai ce que ça donne.
Ouais.
C'est vraiment excellent. À la condition, bon, d'une part de savoir piloter, d'autre part d'avoir un dispositif qui absorbe bien les vibrations, etc., etc. Mais
Oui.
c'est déjà très bien. Le truc, fondamentalement, moi, la qualité de l'image, ça avait un intérêt, mais si tu veux, ce qui m'intéressait plutôt, c'était cette totalité, c'est-à-dire de pouvoir faire avec ce projet, d'être dans une sorte d'ingénierie globale en mouvement, ingénierie globale en mouvement. Et d'appréhender ces communautés parce que ce sont des communautés émergentes, jeunes, qui
Oui,
sont
c'est vrai
très
qu'on
vives.
est dans la dynamique des micros, des Oric, des Commodore, etc.,
Ah, Auric,
des
Auric.
années 80, 90, où chacun avait son choix, pouvait bidouiller un peu son ZX, 80, tout ce qu'on voulait. On est dans cette dynamique-là, on le
Ouais, et
ressent,
puis.
et je pense que ça peut ouvrir des horizons.
Ben, en
Comme ça,
fait, on redécouvre, si tu veux, on redécouvre quelque chose d'assez étonnant. D'ailleurs, je lisais un article d'un gars là, que je connais qui disait on redécouvre le fait qu'on peut faire les choses par soi-même et
exactement.
qu'un dispositif d'ingénierie électronique ou d'ingénierie générale, c'est pas magique. Il y a pas, c'est une sorte de désenchantement au sens positif du terme. C'est-à-dire on sort de cette espèce d'enchantement, j'ai une boîte fermée, commerciale, et on rentre dans la possibilité finalement de le réintégrer. Alors tout ça, évidemment, c'est porté par tous les mouvements makers, tous les mouvements autour de ça. Mais c'est vrai qu'il y a des objets qui cristallisent plus ou moins, notamment pour les développeurs.
Ben là, il y a du fun, il y a de la techno, il y a tout quoi.
Il y a tout en même temps, donc c'est un
Ouais.
domaine terrible. Voilà.
C'est excessivement intéressant, ce qui fait qu'on pourra en parler pendant plusieurs heures. Donc,
Il
je
va
pense
bien
qu'on a
falloir
bien
arrêter.
fait. Voilà, et on a déjà fait un bon tour de piste aujourd'hui. On va laisser tout un tas de liens dans les notes de l'émission qui permettront aux passionnés d'aller cliquer. On va donner aussi tes coordonnées, éventuellement, si des gens sont intéressés pour avoir quelques infos, contacter soit moi, soit toi, on va pouvoir le faire. Mais dis-nous quand tu penses, si tu connais déjà précisément les dates de ton projet, est-ce qu'on pourra le suivre en temps réel?
Ah mais
Comment
alors, très
maintenant que
simplement.
l'œil te supporte, qu'est-ce qu'on fait?
Alors, c'est très simple. J'ai mis en place une communauté qui s'appelle walkingworking.com, qui est une communauté de marcheurs-travailleurs que je vais développer dans les années à venir. Une communauté qui portera ses projets, différents projets, parce que je ne vais pas en rester là, hein. Et donc, pour me suivre, il faut aller sur walkingworking.com. C'est très
D'accord.
simple. Il y a tout pour me contacter. Voilà. Après, vous pouvez de toute façon aller sur mon site de développeur indépendant, mais il y a les coordonnées sur ce site-là. La marche se produira du 18 août au 25 août 2014. Elle se localise dans une zone où malheureusement peu d'entre vous pourront venir me rencontrer parce que c'est au centre de la France, au niveau en Lozère principalement que je vais marcher.
On va sur Twitter ou sur l'un ou l'autre réseau sociaux, tu vas donner régulièrement des
Alors,
nouvelles,
je vais
non?
donner beaucoup de nouvelles en continu. Il va y avoir un dashboard en temps réel avec certaines informations biométriques, tout ça plus ou moins intéressantes, mais quand même avec des photos. Il va y avoir évidemment sur le blog une section importante aussi là-dessus. Normalement, durant la marche, vous allez être sérieusement informés. Entre-temps, ce qu'on a aussi, c'est qu'on va avoir quand même une audience à mon avis, résolument importante autour de ce projet parce que mon sponsor Weezings supporte vraiment très activement ce projet. Ils ont le fait de plonger mes immenses ardoises d'achat d'hiver. Ils supportent très fortement ce projet en moyens humains de communication, en relations de presse, etc. Et donc, on espère arriver justement. Alors, évidemment, avec un biais qui est celui quand même plutôt de parler de la dimension santé, quantified self, mise en mouvement, marche au sens toute la dimension. Oui, presque santé du projet, et celle qui sera peut-être la plus médiatisée. Cependant, on va avoir là un article important sur l'autopilote, sur le mode de vol qu'on a mis au point, autopilote. On va avoir tout un tas de trucs. Donc, des news, il va y en avoir un peu partout. Une seule adresse pour avoir, je vous ai dit, je vous la répète, walkingworking.com. C'est quand même assez simple à retenir. Et puis, à partir de ce point-là, vous trouverez tout le reste.
D'accord, un grand merci Benoît. On va mettre toutes ces informations sur le site de NIPDEV. Je suis sûr que les auditeurs ont entendu, on sent la passion, l'énergie positive qui t'anime au travers de ce projet. C'est très communicatif. Moi, j'étais déjà un peu vraiment intéressé par ces sujets-là. Je le suis de plus en plus. On aura beaucoup d'informations sur le site. Merci beaucoup. Donc, du 18 au 25 août, si j'ai bien compris, c'est bientôt, c'est dans même tout juste un mois, la marche. On va suivre ça de très près. Il me semble que tu avais éventuellement prévu de refaire une apparition dans la communauté, mais cette fois chez nos amis de Nipsport. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité.
Peut-être. En fait, ils m'ont proposé. Alors, c'est vrai que ça serait intéressant de le faire. Ne serait-ce que pour parler de différents aspects, parce que c'est vrai que mon aventure depuis un an, c'est une aventure sportive. Ça paraît pas, mais c'est vrai que le fait de marcher des centaines de kilomètres par mois, là, j'ai fait 6000 kilomètres cette année, en gros. C'est une véritable aventure sportive pour un sédentaire, au départ. Et c'est intéressant, oui, de parler de cette reprise du sport. Ouais. Donc j'espère. Ils m'ont proposé, mais en même temps, je veux pas saturer les.
Attends, t'es loin de saturer là. Et je pense, moi, on avait eu l'occasion de discuter un peu sur cet aspect, l'aspect plus morphologique, sportif. Et il y avait un certain nombre de choses que tu avais évoquées à ce moment-là que je trouve très intéressant et qui méritent vraiment d'être mentionné et d'être.
Écoute, avec plaisir, moi je suis. Parler, je,
bon, voilà. Hermano m'a dit qu'il était intéressé, donc je pense que ça va se faire.
Non, mais moi, on n'a pas voulu faire exactement tout en même temps, quoi. Si tu veux. On a le temps.
Là, on est avant, on fera ça après. Vous ferez ça.
On fera ça après. Ah, après, si tu veux, je suis prêt à parler de. C'est vrai qu'il y a tellement de sujets. Moi, je répondrai présent si vous avez envie de discuter de ces sujets-là. J'aime bien ce format. J'aime bien ce format, j'aime bien la méthode, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez compter sur moi s'il y a quoi que ce soit. Ok.
Ok, eh ben, un grand merci. Alors les auditeurs, vous pouvez nous retrouver sur internet, sur nipdev.com, l'épisode sur SoundCloud. Vous retrouvez bien sûr tous les autres podcasts de la communauté, NipTech pour la partie techno, NipSales pour la partie vente, NipLife pour le life hacking, le développement personnel et l'amélioration de la productivité de notre quotidien, NipSport pour le sport, NipEdu pour l'éducation, NipCoin, le tout dernier de la communauté, pour ceux, là c'est plus de la niche, mais c'est toujours intéressant pour ceux qui sont intéressés par les cryptocurrencies, par la confiance décentralisée et assurée par des algorithmes. On en est à notre troisième épisode, mais épisode numéro 2. Et NipDev, alors avec un temps de calme, on va revenir notamment normalement dans 2 semaines, avec un sujet qui va avec un invité normalement. J'en dévoile pas trop pour pas susciter des attentes que je ne serai pas capable d'adresser par la suite. Donc on va essayer d'être présent dans 2 semaines au rendez-vous et puis de s'astreindre, peut-être pas pendant le mois d'août, mais à partir de la rentrée, à beaucoup plus de régularité. Merci beaucoup Benoît pour ton temps et c'est certain, on va être au rendez-vous dans un mois du 18 au 25 août pour suivre tes péripéties et aventures. Ciao, ciao.
Ciao.